Bonjour à chacune et à chacun et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Eureka, coproduit une fois par mois par le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, en Alsace. Chaque troisième mardi du mois, nous retrouvons des chercheurs de laboratoire du CNRS qui, au quotidien, repoussent les limites de nos connaissances. Je reçois aujourd'hui Genaël Imfeld, biogéochimiste à l'Institut Terre et Environnement de Strasbourg, une unité de recherche du CNRS et de l'Université de Strasbourg. Avec lui, nous allons en savoir plus sur la pollution des sols et des eaux.
Eureka, le regard sur la science sur RCF Alsace, en partenariat avec le CNRS, Magali Sarrazin.
Bonjour Genaël Imfeld.
Bonjour Magali Sarrazin.
Nous sommes à quelques jours de la Journée mondiale de l'environnement, qui est célébrée le 5 juin, sous l'impulsion des Nations unies. C'est une année spéciale, 2022, puisqu'il y aura 50 ans de programme de soutien des Nations unies pour protéger l'environnement. Ce qui m'a fait faire tout de suite un lien avec la crise du changement climatique, face à laquelle, très rapidement, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, s'est constitué en 1988. Et je me demandais, il n'existe pas la même organisation face à la pollution des sols ou des eaux ?
Alors oui, effectivement, il n'y a pas tout à fait le même type d'organisation aussi développée, avec autant d'interactions que le panel sur le climat. Mais il y a néanmoins quelques initiatives qui existent. Je pense notamment à la convention de Stockholm en 2001 sur les polluants organiques qui ont planché sur, on va dire, les principales molécules et les substances chimiques très polluantes à interdire d'urgence, comme l'aldrine, le mirex, etc. Et puis, il y a d'autres panels qui sont également connectés aux pollutions indirectement, comme l'IPBES, qui est le panel sur la biodiversité qui travaille notamment sur les impacts chimiques sur la biodiversité et le déclin de biodiversité qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Donc la communauté scientifique s'organise en effet. Et vous parliez de ces molécules aldrines, on parle de molécules qu'on trouve dans les pesticides, qu'on trouve où ?
Alors c'est des molécules qui existent, oui, comme pesticides ou qui ont été utilisées comme composants industriels.
Alors, je vais en profiter pour vous faire basculer tout de suite sur un projet de recherche dont vous voyez le bout, qui s'appelle NAVEBGO. Alors, c'est un acronyme allemand pour la traduction de « réduction de l'apport de biocides dans les eaux souterraines du Rhin supérieur ». C'est un projet qui est financé par l'Union européenne et plus particulièrement par le Fonds européen de développement régional. Il a débuté en 2019 et vous en êtes maintenant à la phase de restitution des résultats. Alors, je fais déjà une parenthèse, je reviens toujours sur les terminologies biocides. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biocide ?
Eh bien, c'est une substance ou une préparation qui peut détruire, repousser ou rendre inoffensif ce que l'être humain va considérer comme pathogène. Biocide qui tue la vie, par définition.
D'accord, alors c'est la grande enveloppe où on mettrait tout.
Voilà.
Les pesticides, comme peut-être des produits, les médicaments qui vont se retrouver à déranger un écosystème ou quelque chose comme ça.
Oui, exactement. C'est la grande famille, en fait, des molécules qui sont utilisées pour détruire d'autres organismes.
Alors, dans ce projet NAVEBGO, vous êtes plusieurs chercheurs en sciences du vivant, comme en sciences sociales, d'Allemagne et d'Alsace. Qu'est-ce qui vous a motivé à constituer ce consortium scientifique ? Il y avait bien une question de départ, quelque chose qui vous chiffonnait.
Oui, tout à fait. Alors, dans ce qui nous chiffonne, en fait, c'est dans la ville, il y a énormément de biocides différents qui sont utilisés. Et puis, en Allemagne, les collègues de l'Institut d'hydrologie de Freiburg, ils ont mis en avant que sous le quartier Vauban, qui est un écoquartier, à Freiburg, eh bien, on a retrouvé une assez grande quantité de terbutrine, et notamment qui est un biocide de la famille des triazines, comme l'atrazine, qu'on retrouve beaucoup dans la nappe d'Alsace. Et finalement, ça nous a mis la puce à l'oreille. D'où est-ce que ça vient ? Pourquoi est-ce que ça persiste ? Pourquoi on retrouve encore cette substance-là, alors qu'elle a été interdite en agriculture depuis plus de 20 ans maintenant ? Donc on a commencé à se poser la question, à remonter le cheminement, et on a vu en fait que ça venait en très grande partie des peintures qui sont utilisées communément à l'extérieur pour protéger les façades.
Donc point de départ, cette molécule, mais C'est-à-dire qu'on fait des surveillances et qu'on surveille après son interdiction qu'elle n'est toujours pas dans nos environnements. C'est ça ?
Oui, il y a régulièrement des surveillances qui sont faites par les villes. Alors en Europe, dans d'autres parties du monde, il faut quand même le dire, c'est très peu suivi et ça fait d'ailleurs partie des pollutions. C'est que la production, la dissémination, la surveillance des polluants aujourd'hui à l'échelle mondiale, elle est hors contrôle. Ce qui fait que, on va dire, l'introduction de nouvelles entités comme les polluants dans l'environnement fait aujourd'hui partie de ces limites planétaires, comme le changement climatique que vous évoquiez au début de l'émission.
Alors, la vilaine, la molécule, c'est la terbutrine. Mmh. On sait qu'elle peut, ça peut, elle peut faire quoi ? Elle peut déranger quoi ?
Alors, les gens, et beaucoup de gens, aiment bien les façades bien blanches. Et puis, surtout, il faut que ça reste blanc. Donc pourquoi ? On peut déjà se poser la question. Pour qu'une façade reste blanche, c'est quand même pas rien. Une façade extérieure, quand il pleut dessus, elle va être forcément exposée à des algues, à des champignons, à des bactéries. Et donc la terbutrine, c'est en fait un herbicide qui va se retrouver en très grande quantité à l'intérieur des peintures. Et quand il pleut, bah justement, ça ruisselle le long des façades. Et ça part ensuite dans la terre, et dans la terre, ça peut s'infiltrer ensuite jusqu'à dans la nappe. Et c'est pour ça qu'on la retrouve également ici à Strasbourg.
Alors, partant de ce constat, vous ensuite, vous vous dites qu'est-ce qu'on veut identifier, qu'est-ce qu'on veut savoir. Et je suppose que le point d'arrivée, c'est réduire cette contamination. Mais quelles sont vos étapes ? Vous vous dites... on doit faire quel test pour savoir quoi ? Quelles sont les étapes constitutives, on va dire, de votre groupement de scientifiques ?
Oui. Bah déjà, se poser la question, qu'est-ce qui existe comme connaissance sur cette terbutrine ? Et puis, on s'est rendu compte que finalement, il n'y a pas tant de choses que ça. On ne sait pas exactement comment ça se dégrade. Autrement dit, comment cette molécule, cet assemblage de carbone, d'hydrogène, de soufre, va être coupé ? Par où ça va commencer ? Comment ça va se passer ? Est-ce que c'est l'énergie du soleil finalement qui va casser cette molécule ? Est-ce que ce sont des bactéries qui vont le faire mieux ou différemment ? Et quand on combine tout ça, qu'est-ce qu'on va retrouver aussi comme produit de transformation ? Et là, il y a une immense inconnue qui reflète aussi l'état de l'art sur pas mal de pesticides et de biocides en général, c'est qu'on sait très peu de choses sur les produits de transformation. On connaît la molécule par an. Mais les enfants de cette molécule, une fois qu'elle est dégradée, on les connaît peu. Et ça peut varier. Il y a parfois 5 ou 10 produits de transformation, mais parfois on peut dépasser plusieurs dizaines.
Alors c'est ça, une des étapes constitutives, c'est d'identifier les produits de dégradation, de transformation de cette molécule.
Tout à fait. Donc on va au laboratoire, on prend cette molécule, on va essayer déjà de la faire réagir dans des conditions bien contrôlées. Où on est capable de maîtriser l'énergie du soleil, où on est capable de regarder avec certaines bactéries ce qui va se passer en connaissant les voies de dégradation, etc. Et on va regarder combien de temps ça met pour se dégrader dans ces conditions. Quels sont les produits de transformation qui vont être formés. Et puis, nous, après, on a notre spécialité, on va travailler sur l'analyse isotopique. Mais je crois qu'on y reviendra peut-être par la suite.
Oui, oui, ouais. Oui, tout à fait, ça nous intéresse. Juste les produits de transformation, ça vous intéresse parce que vous soupçonnez que ça peut être encore plus dangereux que la molécule d'origine ou parce que vous voulez savoir quel est le résidu final ?
Eh bien, en fait, on pourrait dire que quand... un pesticide, il est complètement dégradé, eh bien, il part en gaz, il part en CO2, finalement. Donc, qu'est-ce qui se passe entre la molécule de base qu'on met et puis le CO2 ? Eh bien, il y a cette cohorte, en fait, de produits de transformation. Pour savoir, en fait, s'ils sont dangereux ou pas, il faut être capable de faire des tests. Donc, il faut déjà connaître ces molécules. Et manque de bol, très souvent, on ne les connaît pas. Donc pour celles qu'on connaît, ça a été fait sur d'autres molécules, on est capable d'utiliser ces produits-là et de les mettre en contact avec des organismes et de regarder s'ils meurent ou s'ils ont des problèmes à se nourrir, etc. C'est comme ça qu'on peut voir la toxicité. Globalement, le problème avec les pesticides et leurs produits de transformation, c'est l'effet cocktail. C'est quand on combine en fait toutes ces différentes molécules, qu'est-ce qui se passe ? Et ça, aujourd'hui, on n'est pas capable de bien pouvoir le prédire. On est capable de regarder molécule par molécule quand on les connaît, ce qui se passe. Mais quand on combine une ou deux molécules, on ne sait pas exactement ce qu'il se passe.
Alors pour justement analyser vos molécules par molécule, vous avez recours, là on a fait durer un peu le suspense, à l'analyse isotopique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une nouvelle méthodologie? Qu'est-ce que vous faites de plus avec ça?
Alors si par exemple on va dans le quartier Vauban, qu'on prend de l'eau de la nappe, on peut suivre la concentration, donc ça c'est ce que font la plupart des laboratoires, les villes sous-traitent à des laboratoires et vont regarder l'évolution de la concentration dans la nappe, et puis finalement on se rend compte que la concentration elle augmente ou elle diminue, mais ça nous dit pas grand-chose sur la persistance ou la dégradation de cette molécule. Autrement dit, quand on rajoute beaucoup d'eau, on diminue d'autant la concentration, on dilue. Donc cet effet de dilution, il n'enlève pas pour autant la masse totale en fait, du pesticide qui est arrivé dans la nappe. Donc pour regarder plus finement comment s'opère la dégradation, on a besoin de techniques poussées, et l'analyse isotopique en est une. On va regarder la signature de cette molécule, et ces signatures-là, isotopiques, elles vont nous dire par où commence la dégradation, quel type de produit de transformation on peut attendre, et va nous permettre aussi de quantifier cette dégradation, de savoir quelle est la part de la dégradation dans ce grand changement de concentration qu'on observe.
Alors, on comprend l'intérêt de cette analyse-là, mais ça repose sur quoi, alors, cette analyse isotopique? Il faut des instruments très pointus. Comment on procède pour faire cette analyse isotopique?
Alors, bon, déjà, il faut expliquer ce qu'est un isotope dans ce cas. Un isotope, on va dire, les atomes, ils ont des protons et des électrons en même nombre, de sorte à ce qu'il y ait un équilibre électrique. Et puis, il va y avoir des neutrons également. Donc, un isotope va être un atome qui diffère par son nombre de neutrons. Alors, par exemple, pour le carbone, on connaît très bien le carbone 14, ça sort très souvent, les gens connaissent ça bien parce que ça permet de faire de la datation. Donc c'est très utilisé en paléologie, etc. Mais il y a aussi le carbone 13, qui est un isotope, qui lui est dit stable. Donc il y a le carbone 12, qui est lui le plus courant. Donc sur la Terre, on a en gros 99% de carbone 12 et à peu près 1% de carbone 13. Mais lors de la dégradation, on va changer cette proportion. Les bactéries, elles vont préférer les molécules qui dégradent finalement les molécules qui contiennent du carbone 12, de sorte à garder en fait leur énergie, et un petit peu moins celles qui contiennent du carbone 13. Et donc, à travers ça, on va pouvoir voir la dégradation et la quantifier.
Est-ce qu'on fait une petite pause musicale justement après toutes ces, sous l'effet de ces isotopes? Vous avez choisi quelle musique?
Alors, c'est Dan Arbraz, suite de Kopanitsa, en live.
Eureka, le regard sur la science sur RCF Alsace, en partenariat avec le CNRS, Magali Sarrazin.
Je suis avec Genaël Imfeld, bio-géo.
Bio-géo.
Je suis avec Genaël Imfeld, bio-géochimiste, c'est que j'ai du mal à le dire, à l'Institut Terre Environnement de Strasbourg, ITES, qui est une unité de recherche du CNRS et de l'Université de Strasbourg. Est-ce qu'il y a une raison pour votre choix musical ?
Oui, donc c'est le Bagat de Quimper. Ben, moi, je trouve cette musique, elle est puissante, elle est simple, efficace, joyeuse. Et puis, je trouve un petit peu dérangeante aussi. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Et je trouve ce concert, en fait, du biniou, qui est un instrument traditionnel, qui se mêle très, très bien avec la guitare électrique et plein d'instruments modernes, c'est en fait une sorte de conversation passionnée.
Vous m'avez dit, je reviens très loin dans nos précédentes discussions, qu'enfant, vous aimiez bien jouer avec la terre, qui justement a une odeur très, très particulière. Aujourd'hui, vous savez mettre les mots sur cette odeur, d'où provient-elle ?
Oui, alors, ben, c'est cette terre qu'on sent dans la forêt, ou quand il pleut, quand il y a eu énormément de sécheresse, etc., il y a cette odeur absolument magnifique qui se répand, que certains adorent, que d'autres détestent, hein, soit dit en passant. Mais en fait, voilà, c'est toujours une fascination de sentir les différents types d'humus. Alors l'humus, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'il y a dans les sous-bois, c'est ce qu'il y a dans les jardins. Chaque humus est très particulier en fonction de la végétation qui y règne et puis de la santé aussi, hein, de la forêt. Et cette matière organique, eh ben, elle a été formée avec, on va dire, la rencontre entre le monde minéral et puis le monde végétal. Donc c'est les feuilles qui se sont dégradées à travers tout un tas de processus et qui ont commencé à se mêler avec des argiles, avec différents types de minéraux. Et alors cette odeur, d'où elle vient ? Eh ben c'est aujourd'hui, je sais, quand j'étais plus petit, je savais pas. C'était la géosmine et le pétrichor. La géosmine, c'est produit en fait par un certain nombre de bactéries dans le sol. Le pétrichor, lui, il vient en fait de la végétation et de certaines molécules végétales. Et là aussi, on a une histoire de rencontre, quoi. Comment les micro-organismes, ils vont utiliser ces molécules végétales qui tombent des feuilles. Et tout ça forme une odeur absolument magnifique qui, je pense, communique quelque chose à nous, comme humains, mais aussi aux vivants non humains, et qui nous relie.
Alors, ça me fait très plaisir d'avoir une explication sur cette odeur. Et je retiens les noms de ces molécules, là, je peux dire ce terme, la géosmine et le pétrichor.
Tout à fait.
Avec biniou, ça va nous faire une ribambelle de mots magnifiques. Et j'en profite pour vous emmener justement plus loin dans les sols et sur un autre projet de recherche auquel vous avez travaillé et qui était de faire la synthèse, le bilan de la présence de cuivre dans les sols viticoles et à l'échelle de l'Europe. Alors là encore, je voulais vous demander quelle est la problématique de départ. On sait déjà qu'il y a trop de cuivre, et pourquoi du cuivre d'ailleurs ?
Alors le cuivre est utilisé comme fongicide depuis quasiment la nuit des temps, mais beaucoup depuis le 19e siècle, parce qu'il va en fait être très efficace contre le mildiou notamment, mais aussi contre d'autres pathogènes de la vigne. La vigne, il faut voir ça comme des gros cubes de sucre en plein air, quoi. Donc dès qu'il pleut, etc., il va y avoir du sucre et ça va attirer énormément de pathogènes potentiels qui vont réduire ensuite le rendement. Et alors le cuivre, il va être mis sur les feuilles, donc il y a différents types de cuivre, et quand il pleut, il va se retrouver ensuite dans le sol. Et une partie de ce qui est appliqué va aussi se retrouver dans le sol. Mais par rapport à la terbutrine dont on parlait précédemment, le cuivre, lui, il s'accumule. C'est un élément, donc il ne se dégrade pas. Donc au fil du temps, il s'accumule dans le sol, et
donc
justement
c'est
dans
plus...
cette matière organique.
Est-ce que ça veut dire que c'est plus simple pour vous, du point de vue scientifique, pour le suivre justement avec... vous n'êtes pas obligé de suivre les isotopes, on va dire, là, pour le coup.
Alors, non, c'est pas forcément plus simple. Et il y a beaucoup de questions qu'on se pose encore sur le cuivre. On peut prendre... aujourd'hui, on sait bien mesurer le cuivre. Donc, on peut prendre du sol et on peut dire, voilà, en fait, la teneur totale en cuivre qui existe dans ce sol. Mais ça nous dit finalement très peu de choses sur le comportement du cuivre dans un sol ou un sol viticole. Autrement dit, comment ce cuivre, il va, au fil du temps, se mêler à la matière organique, puis aux minéraux. et quelle fraction de ce cuivre va être en contact avec les organismes et poser potentiellement des problèmes.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il s'accumule, mais le problème est peut-être plus complexe qu'un empilement.
Oui, tout à fait. C'est la façon dont il s'accumule qui va dépendre en fait du type de sol. On parle beaucoup du pH, donc l'acidité du sol. Un sol, par exemple, très acide, va pas forcément bien retenir le cuivre. Et le cuivre, il va partir en fait dans l'eau du sol. Et puis, par contre, un sol qui contient beaucoup de matière organique, il va beaucoup retenir le sol, parce que le cuivre aime bien la matière organique.
Et quels sont les risques environnementaux, justement, de ce trop, cette accumulation de cuivre? Qu'est-ce qui va se passer?
Alors, ça, c'est une question très intéressante, hein, qui a aussi une résonance, on va dire, philosophique. À force d'accumuler, à partir de quand, en fait, ça craque? Et on va passer dans un monde où il peut y avoir des conséquences brutales et imprévisibles en termes de toxicité. Donc on sait qu'il y a un seuil qui est défini entre 150 et 250, peut-être 300 mg de cuivre par kilo de sol, où il y a une toxicité pour les organismes. Alors ça va être pour les algues qui existent dans le sol, mais également pour les vers de terre, les oiseaux vont ensuite manger ces vers de terre, etc. Donc il y a eu une révision de la réglementation européenne à ce sujet. Autorisé précédemment était 6 kg de cuivre par hectare par an, et aujourd'hui on est à 4 kg par hectare par an. Donc l'Union européenne a bien pris conscience de ça, mais ça pose évidemment énormément de problèmes économiques pour les viticulteurs qui utilisent abondamment du cuivre, que ce soit des viticulteurs conventionnels ou en agriculture biologique d'ailleurs.
Alors, dans quelle zone européenne, ou peut-être plutôt on va resserrer le zoom en France, dans quelle zone les viticulteurs sont le plus en peine parce que justement leurs sols sont vraiment trop intoxiqués au cuivre?
Alors pour le moment, on le voit pas encore forcément très très bien. Peut-être que ça commence à se deviner. En discutant avec des viticulteurs, hein, certains disent que leur sol a moins de vie, qu'il a changé de texture ou de structure. Les vignes qui sont très impactées, c'est par exemple dans le Tokay, au centre de l'Europe. Certaines vignes en Italie. Ici, en Champagne, on peut retrouver des taux très importants. En Alsace, un petit peu moins, parce que dans les vignes alsaciennes, on utilise un peu moins de cuivre qu'ailleurs en France. On est, je crois, une moyenne de 2 kg, 2 à 3 kg par hectare par an. En Champagne, souvent, c'est la dose qui est mise aussi pour limiter les pathogènes.
Donc, les zones viticoles, traditionnellement ou historiquement viticoles, elles ne sont pas toutes, en fonction des sols, elles ne sont pas toutes touchées de la même façon, c'est ça?
Exactement. Il y a une très forte hétérogénéité. Ça va dépendre aussi de l'historique de l'application du cuivre. Certaines vignes ont reçu du cuivre depuis une centaine d'années, voire 150 ans, de façon très importante. Dans les années 50-60, on a reporté jusqu'à 80 kilos de cuivre par hectare par an, donc 10 fois plus que ce qu'on met aujourd'hui, ou encore davantage. Et certaines zones sont très impactées, d'autres moins, et ça va dépendre aussi des caractéristiques du sol. Donc ça va dépendre du pH du sol, de la matière organique, des précipitations qu'il va y avoir dessus. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, et ça c'est ce qu'on a montré dans nos travaux, c'est qu'au fil du temps, on augmente ses concentrations en cuivre et il est tout à fait envisageable que d'ici quelques décennies, 40 ans, 50 ans, on atteigne ces seuils de toxicité à partir desquels on ne peut plus répondre de grand-chose et il y a un risque réel pour la pérennité de ces sols. Et les viticulteurs sont très attachés à leur sol et c'est leur outil de travail.
Alors, est-ce que vos travaux de recherche vont jusqu'à la solution ou est-ce que vous appelez les mesures de remédiation, c'est-à-dire qu'on peut décider de ne plus mettre du cuivre? Oui. C'est un peu comment dire, il y a pas, c'est un peu brut. Mais est-ce qu'il y a des intermédiaires? Est-ce qu'on peut retraiter un sol, l'assainir? C'est possible ça?
Alors, premièrement, il faut, je pense, retourner à la source. Retourner à la source, ça signifie diminuer les doses. Donc on peut aujourd'hui diminuer les doses. Ce n'est pas toujours possible et toujours facile en fonction des saisons. Mais beaucoup de viticulteurs expérimentent et le font d'ailleurs très très bien et arrivent à diminuer les doses annuelles en mettant moins mais plus souvent, par exemple, en regardant et en observant leurs vignes et en sachant à quel endroit, à quel moment pouvoir mettre ce cuivre.
Donc on ne va pas vers une solution de stopper, mais de jouer avec les doses, les saisons, entendu.
Tout à fait.
Je vous remercie, Kenaël Imfeld, de nous avoir fait partager vos connaissances. Ce magazine Eureka est maintenant terminé et je voudrais aussi remercier Paul Fontenot, créateur de l'émission, ainsi que Nicolas Humbert et Théo Guindoni qui nous ont accompagnés à la régie. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site rcf.fr et surtout, la partager. Thank you.